France Inter. Le 7-10.
Et Léa, ce matin, vous recevez une journaliste, grand reporter.
Bonjour, Solène Chalvon-Fioriti.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Si vous étiez un pays, une langue et un livre, vous seriez quoi ?
Alors un pays, je dirais l'Afghanistan, puisque c'est le pays qui m'a apporté ma famille, ma carrière. Un livre, je dirais Anima, de Wajdi Mouawad, qui est une chasse à l'homme extraordinaire.
Et une langue,
bah, je dirais le Dari, qui est la version, qui est le persan afghan, que je me suis évertuée à apprendre toutes ces années, et j'ai encore du taf. Ouais. Voilà.
Le persan afghan, c'est étonnant, parce que c'est vrai qu'on vous avait découverte, vous êtes grand reporter, vous êtes documentariste, on vous avait reçu ici il y a un an pour votre documentaire éblouissant afghan sur la vie des femmes sous le régime taliban, qui avait été diffusé sur France 5 et qui avait fait le meilleur score de la case en documentaire de France Télé de toute l'histoire. Vous aviez fait 1,5 million de téléspectateurs pour les afghanes, c'était énorme pour France 5 en prime, et vous revenez avec un autre documentaire qui sera diffusé aussi dimanche prochain à 21h sur France 5. Et là, pour le coup, c'est l'autre pays, c'est le persan, c'est l'Iran. Le documentaire s'appelle « Nous, jeunesse d'Iran, voyage interdit au pays de la génération Z iranienne ». Vous décrivez la mosaïque qui est la jeunesse iranienne. Un jeune sur 4 en Iran à moins de 25 ans, un jeune sur 6 à moins de 35 ans, à travers le portrait de 6 jeunes, des garçons, des filles, des urbains, des ruraux, tous percutés par la révolution Femmes, Vie, Liberté qui couve depuis 2022 et la mort de Mahsa Amini. Pourquoi vous avez mis jeunesse d'Iran au pluriel?
Pas parce que justement cette jeunesse, elle n'est pas homogène. La jeunesse, c'est pas simplement la jeunesse qu'on a pu voir en l'automne 2022 dans les images de Femmes, Vie, Liberté. Ça, c'est une jeunesse très urbaine, c'est une jeunesse de la classe moyenne, mais il y a d'autres mondes en Iran, et je voulais explorer les sphères religieuses et puis explorer en fait ce qui les relie tous. Et ce qui les relie tous, vous l'avez dit, j'ai été la première surprise d'ailleurs, mais c'est l'onde de choc Femmes, Vie, Liberté, sur laquelle ils ont tous quelque chose à dire, et surtout une onde de choc qui les a tous vraiment choqués, où qu'ils soient.
On va en parler parce qu'il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, parce qu'il y a même des jeunes Iraniens qui sont contre cette révolution. Mais d'abord, un mot sur l'actualité, cette attaque sans précédent d'Israël par le régime iranien samedi, le risque d'escalade régionale. Les Iraniens, les jeunes Iraniens et les jeunes Iraniennes que vous suivez, à qui vous avez parlé ce week-end après l'attaque, est-ce qu'ils se préparent à un conflit ouvert, à une guerre régionale avec Israël?
Non, pas vraiment. Alors ceux avec lesquels j'ai discuté depuis l'attaque sont plutôt inquiets en fait pour les frais d'essence, c'est-à-dire qu'ils ont peur, ils n'ont pas tous nécessairement une voiture, mais ils ont besoin de prendre le taxi pour aller à la fac. Donc en fait, ils ont peur des frais d'essence qui risquent encore d'augmenter, et ils ont peur aussi parce que, en fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais ça se passe souvent comme ça d'ailleurs dans la politique iranienne, c'est-à-dire que on attire les yeux vers Gaza, mais en réalité, on a vu ces derniers jours le retour sinistre de la police religieuse iranienne qui avait complètement disparu ces derniers mois. Et là, on a plusieurs images de filles qui sont raptées dans la rue avec la même violence que ce qu'on avait vu à l'époque avec Jina Mahsa Amini. Et donc ça nourrit une vraie peur de la part des jeunes femmes qui ont notamment tourné ce film. Mais sur l'attaque israélienne, non, en fait, ils sont assez persuadés, pour ceux avec lesquels j'ai discuté, il y a un tel cynisme, une telle hypocrisie du régime iranien sur la question de Gaza, qui est d'ailleurs évoquée dans le film.
Qui est évoquée dans le film, parce qu'on voit dans le film que partout dans Téhéran, il y a des affiches de Gaza avec des enfants le visage d'enfants ensanglantés. C'est partout dans Téhéran, on le voit dans votre film.
C'est partout, et d'ailleurs, on filme pas qu'à Téhéran, on est dans 3 villes iraniennes, c'est partout, et surtout ces affiches sont moquées parce qu'elles sont constamment renouvelées, et donc avec une espèce de farce macabre, des images toutes plus glauques les unes que les autres, des enfants de Gaza avec des ailes dans le dos, avec Al-Aqsa derrière ensanglanté, enfin, il y a toute une mise en scène en fait qui est vraiment moquée par Sarah qui nous raconte ce film, mais qui est aussi, en fait, je pense qu'on n'a pas bien vu, nous, ici, à quel point depuis l'attaque du 7 octobre, le régime iranien essaye de recycler cette histoire. En permanence, on voit ce jeune homme Basidji, donc de cette milice iranienne, qui raconte comment son petit frère qui a 8 ans, là dans les mises en scène et dans les spectacles de théâtre qu'il fait à l'intérieur du Basidji, on fait d'eux de nouveaux martyrs, on les déguise en martyrs, de nouveaux martyrs de la cause de Gaza, et donc il y a toute cette martyrologie
qui est très présente dans votre film. Vous expliquez que c'est vraiment quelque chose de culturel et d'historique en Iran, le culte du martyr.
Parce qu'il est attaché à la jeunesse, bien sûr, et c'est les paroles d'ailleurs de Sarah dans le film, c'est-à-dire que pour le régime iranien, un bon jeune iranien, c'est un jeune mort. Et d'ailleurs, elle tourne toutes ces images où on voit toutes ces fresques avec tous ces jeunes gars, tous en uniforme, qui sont morts à tous les coins de rue, tous ces noms de rue même qui portent des noms de martyrs. Et en fait, elle dit assez finement, je crois, elle dit, ça y est, ils ont trouvé, vu qu'ils nous ont perdus sur cette cause, que vraiment l'Iran et l'Irak, c'est le combat de nos parents, c'est pas le nôtre, il est désincarné pour nous, on comprend pas la guerre.
La guerre Iran-Irak dans les années 80, qui a été ultra meurtrière.
Tout à fait, qui est un traumatisme national, surtout pour la génération de leurs parents. Et elle dit, là, avec Gaza, ils sont en train d'essayer de nous pousser, nous, aux martyrs, ou en tout cas à cette idéologie, de nous rappeler cette familiarité. Et en fait, les jeunes Iraniens sont complètement désintéressés. Vous savez, dans les manifs de Femmes, Vie, Liberté, il y avait un slogan qui m'avait beaucoup marqué, parce qu'il y avait quand même des slogans très 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 patriotes, et il y en avait un qui disait « Ni Gaza, ni Liban, je me battrai pour l'Iran ». C'est-à-dire qu'ils ont très bien compris qu'on cherche à les instrumentaliser dans ces conflits proxy, ils n'ont pas envie d'y aller.
Proxy, c'est décidément le nouveau mot à la mode, c'est-à-dire les voisins en gros, la proximité des voisins. Sur votre documentaire, il y a quelque chose de totalement inédit, jamais vu dans un documentaire français, en tout cas, je ne sais pas si à l'étranger ça avait déjà été utilisé.
Oui, aux États-Unis. Ouais.
Aux États-Unis. C'est que vous avez utilisé pour la première fois l'intelligence artificielle pour changer le visage et la voix de vos six témoins, parce que vous suivez six jeunes. Et ça, je trouve. Alors pour le coup, on fait des débats souvent avec Nicolas pour parler des ravages possibles de l'intelligence artificielle, mais là, pour le coup, c'est extrêmement réussi. Parce que s'il vous parlait devant une caméra, vous, télévision étrangère, ce serait, il prendrait le risque d'être arrêté, d'être mis en prison et voire d'être torturé. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, jusqu'à maintenant, quand on voit des gens qui parlent en se cachant, soit on les filme de dos, soit on floute le visage. Or là, avec l'intelligence artificielle, ils ont un nouveau visage iranien, donc on voit les traits iraniens, c'est pas, vous faites pas des blondes aux yeux bleus, quoi, pour parler des iraniennes. Et en même temps, c'est leur hologramme, mais il y a de la ressemblance, mais voilà. C'est assez dingue, ce nouveau
procédé. En fait, surtout, c'est ce qu'a fait Jurisprudence, vous l'avez dit, donc je suis très heureuse parce que France Télé et ma maison de production, et ma éléphant, et ma productrice Béatrice Schoenberg m'ont suivi dans cette tentative, parce qu'effectivement, c'est pas facile, surtout en France aujourd'hui, d'avoir envie de proposer avec l'intelligence artificielle un traitement que moi, je considère comme vertueux et humaniste. Alors, ça peut pas même être plus humaniste pour moi, puisque on rend l'humain, c'est-à-dire qu'on rend un visage. Et vous et moi, on le sait, le visage, c'est pas nous qui l'avons théorisé, c'est le point de départ de la fraternité. Et les expressions du visage, c'était ça la plus grande surprise pour moi, et même le plus grand cadeau, c'est-à-dire qu'on a fait d'une contrainte, en vrai, pour moi, une force, parce que je n'avais pas compris au départ. J'avais vu un film exceptionnel américain qui s'appelle Welcome to Chechnya, qui raconte l'exfiltration de militants LGBT tchétchéniens à qui, justement, on change le visage avec la même technique. Et en fait, je n'avais pas compris que lorsque vous faites ça, vous épousez, vous gardez les expressions du visage. Et bien sûr que la terreur, l'effroi, la surprise, le doute, en fait, ce sont des expressions, c'est un langage universel. Il n'a pas besoin de langue. Donc, c'est ce qu'on s'évertue toujours, nous, quand on travaille dans la télé, à garder. Et en plus, la protection des sources, c'est un sujet sur lequel, en fait, on va continuer de travailler. On a toujours travaillé. Bien sûr que ça pose des questions de confiance. Mais en fait, le jour où vous avez dit aux gens, bah là, la dame qui parle derrière le flou, c'est vraiment elle. Qu'est-ce qui fait que le téléspectateur l'a cru? Il l'a cru alors qu'il ne voyait pas l'image. Il l'a cru parce que vous avez bâti la confiance. On construit la confiance comme on construit la défiance. Et je pense qu'avec l'IA, là, quand je vois ce qu'on arrive à faire, et en plus, quand je vois, et là, je suis particulièrement émue et heureuse pour elle, parce que ce sont les témoins qui ont choisi leur visage avatar. Et je pense que ça ne nous a pas échappé qu'elles sont toutes très jolies.
Oui, elles sont toutes très jolies.
Elles sont toutes très jolies parce qu'elles se sont toutes choisies des beaux visages. Et ben, je me dis, on a encore plus fait la nique au régime iranien qui cherche absolument à terrer, à cacher, à invisibiliser, et surtout cette mise en valeur de la beauté, ben elles se sont toutes choisies des visages magnifiques.
Moi, ce qui m'a frappé le plus dans votre film, c'est le courage et les petits gestes de résistance au quotidien de tous ces Iraniens, et notamment à Téhéran. C'est-à-dire, on découvre dans votre film qu'on peut danser le hip-hop dans le métro de Téhéran. Il faut savoir que les mollahs interdisent la musique, on n'a pas le droit de chanter, on n'a pas le droit de danser, homme-femme, hein, tout pareil. Et on voit les jeunes danser le hip-hop et avec comme si on était dans le métro parisien. On voit aussi sur le voile beaucoup de femmes dévoilées aujourd'hui à Téhéran. Ou semi-voilées, c'est-à-dire qu'elles poussent le foulard vers l'arrière.
Il y a énormément de femmes dévoilées.
Et donc, c'est ça qui... Parce qu'on s'imagine qu'elles sont toutes couvertes ninja, et en fait, on voit dans les rues de Téhéran qu'elles jouent avec ça. C'est-à-dire quand elles vont apercevoir au loin un gardien de la Révolution, évidemment, elles vont remettre le voile. Mais sinon, elle joue avec la taille. Ces petits gestes de résistance, c'est ça aussi. C'est comme ça qu'aujourd'hui, elle résiste.
Oui, et puis je pense que vous avez mis le doigt sur quelque chose qui pouvait paraître anodin, mais qui a été aussi très émouvant, ou en tout cas très intéressante pour moi dans cette histoire. C'est la force des libertés individuelles, la force que ça a eu dans ce mouvement précisément. C'est-à-dire que moi, je me suis beaucoup intéressée, j'ai essayé de comprendre, mais qu'est-ce qui fait, alors qu'on a eu des soulèvements populaires encore plus importants en termes de nombre ces dernières années en Iran, qu'est-ce qui fait que celui-là, tout le monde s'évertue à dire c'est différent. Et en fait, la puissance, c'est-à-dire ce que nous, la mise en valeur de soi par les réseaux sociaux, par les selfies, par les filtres, etc., tout ce qu'on décrit de la jeunesse chez nous, en Iran, ça a été un formidable moteur de la révolte. Et ça, vous voyez, quand vous parlez des hip-hoppers, des hommes, oui, qui dansent dans le métro, moi, ce qui m'a donné envie de faire ce film, c'est la première vidéo que je regarde sur Internet à la mort de Jina Mahsa Amini. C'est une vidéo où elle est chez elle et elle danse. Et elle danse hyper bien. Et donc, comme vous dites, ils n'ont pas le droit de danser. Ils n'ont pas le droit de danser dans l'espace public. Et en fait, elle sait danser. Et elle sait danser pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur, c'est ce qu'on voit dans le cinéma iranien, parce qu'à l'intérieur de chez elle, on a fait perdurer cette iranité qui est racontée dans le film, ces musiques traditionnelles, cet attachement à la culture iranienne. Et donc ça, ça m'a vraiment donné envie parce que j'ai réalisé que, encore une fois, de la danse à la mise en valeur, à la chirurgie esthétique, à toute cette beauté qui est exprimée dans le film.
Au vernis à ongles, au brushing. C'est comme ça, ce sont ça ces actes de résistance. C'est pas seulement les grandes manifestations, etc. C'est par des petits gestes du quotidien où vous voyez la résistance d'un peuple. Ce dont parle d'ailleurs, puisque vous parlez de la danse, Kian, un des personnages, qui est un des membres de la diaspora iranienne.
We are Iranian students,
voilà,
oui. Formidable collectif.
We are Iranian students. Et 5 millions d'Iraniens qui vivent aujourd'hui à l'étranger, et vous parlent de la force et de la puissance de cette diaspora iranienne pour se battre continuellement contre les mollahs. Et Kian, on va l'entendre, il dit oui, c'est vrai, ils nous répriment, on n'a pas gagné. Pour l'instant, ils n'ont pas gagné. Et même la révolution est réprimée, mais on a gagné la bataille idéologique, et notamment quand un homme danse. Écoutez.
Nous, en tant que jeunes d'Iran, on se retrouve face à une page blanche. On a toute notre histoire, toute notre destinée à écrire encore. Et c'est ce qu'on va faire, en fait. La bataille morale qu'on a gagnée, en fait, c'est pas juste le fait d'être dans la rue. Être dans la rue, on l'a vu, on le paye par le sang. Mais pour les régimes comme ça, qui pètent des câbles sur absolument tout et n'importe quoi, la désobéissance civile, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien parce que ça les fatigue. Ils ont arrêté un vieux parce qu'il dansait dans la rue. C'est vous dire à quel point ils sont paniqués. Il a suffi d'une seule danse pour que tout le pays danse.
Voilà, il faut voir cette scène incroyable de ce vieux très chic iranien qui danse bien d'ailleurs, oui, sur cette fait. Musique très entraînante, et toutes les vidéos qui deviennent virales, qui se filment en l'imitant danser pour défier le régime. Il y a une autre personnage que moi, personnellement, m'a beaucoup intéressée, c'est celle qui est cette jeune femme, mère d'un enfant, divorcée, qui est pro-régime. Alors elle, ultra-religieuse, et elle veut absolument pas que le régime des mollahs tombe. Très intéressant de voir qu'elle est divorcée, très intéressant de voir qu'elle est ambiguë, puisque et de voir, je ne savais pas que le régime des mollahs tolérait les divorces, tolérait les femmes seules qui vivaient divorcées, qui voulaient se séparer, tant qu'elles respectent bien les règles religieuses et qu'elles se voilent bien et qu'elles restent bien à la maison.
Oui, tout à fait. De toute façon, le divorce est un droit chariatique. Hein. Même les talibans en Afghanistan ont laissé des femmes divorcées récemment, c'est vous dire. C'est vrai que Anaïta, d'ailleurs, c'est intéressant que vous parliez d'elle parce que ce qui nous a convaincus, ce qui m'a convaincue du souffle de Femme, Vie, Liberté, c'est vraiment la plongée chez les religieux. Parce que chez les religieux, on a trouvé des gens d'abord beaucoup plus éduqués que ce que je pensais. Je savais qu'il y avait un niveau académique en Iran qui était très important, mais Anaïta, que vous citez, elle est doctorante. Hein. C'est des gens vraiment qui ont tous fait 4-5 ans de fac, qui ont vraiment accepté quand même depuis 20 ans maintenant que leur fille aille à l'université, fasse des cursus importants. Et en même temps, oui, ce divorce qui explose littéralement en Iran, qui a surtout lieu d'ailleurs dans les 5 premières années de mariage. Donc là, encore une fois, quand les gens sont très jeunes. Et c'est ça qui m'intéressait beaucoup. Et elle, qui a l'air effectivement, qui commence quand même par dire, je sais pas pourquoi je suis comme ça, cette république islamique, mais en tout cas, c'est vrai, je la suis. Est-ce que ça me vient de ma famille? Est-ce que ça vient de l'environnement? Toujours est-il que je reste derrière elle parce que je pense, et c'est d'ailleurs ce que disent beaucoup d'Iraniens, parce que sinon ce serait le chaos. Et il y a beaucoup de gens, évidemment, qui pensent ça en Iran. Toujours est-il que cette fameuse Anaïta, vous avez vu comment elle élève son fils. Elle veut qu'il aille à des cours de robotique et d'informatique. Mmh. Elle connaît très bien l'usage de l'intelligence artificielle. Je tiens à dire que c'est la première qui a accepté qu'on modifie son visage. visage et qui préférait ça au flou, puisqu'elle savait, ce que peu de gens savent, que le flou, vous savez, dans 10 ans, ça va pas très bien marcher, parce que les flous légers seront décroisés par des technologies de reconnaissance faciale. Et donc, c'est elle qui l'a choisi.
Solène Chalfont-Fioretti, qu'est-ce qui vous attire dans cet Orient compliqué, désespéré, parfois désespérant? L'Afghanistan, vous avez passé 10 ans, le Pakistan, l'Iran. Plus le pays Qatar, plus ça vous attire?
Moi, je ne les vois pas désespérants. C'est vrai que là, l'Afghanistan, en ce moment, c'est très dur, mais il faut aussi... moi, j'ai aussi envie de parler, surtout quand même des femmes, hein, vous l'avez remarqué encore dans ce film. J'ai pas envie de dire les invisibles, les pauvres, etc., les misérabilistes. Enfin, regardez, vous avez vu les femmes qui parlent dans les films que je fais. Enfin, ce sont des femmes qui sont tellement calibrées, qui vont tellement à l'encontre, en fait, des images misérabilistes qu'on colle aux femmes de ces endroits-là, que c'est plutôt le contraire, en fait. Moi, plus je travaille dessus, plus j'ai de l'espoir. C'est plutôt si je suis
ici... Vous êtes optimiste. Vous dites même que vous êtes plus optimiste aujourd'hui en ayant terminé le film qu'en l'ayant commencé pour l'Iran, pour les femmes iraniennes.
Bien sûr. Au départ, en Iran, ça a été très dur. On a eu beaucoup de problèmes de sécurité pour ce film. Et puis, les gens de Femmes, Vie, Liberté étaient quand même, c'est vrai, assez déprimés. Et puis, c'est vrai qu'en allant du côté des religieux, dans le contre-champ, j'ai compris qu'ils avaient raison, que c'était sans doute inéluctable.
Les impromptus, 2-3 questions, vous répondez rapidement. Dans votre film, il y a cette phrase qui revient comme une litanie. 20 ans, c'est l'âge de l'insouciance, de la révolution, des désillusions. Et pour vous, personnellement, Solène Chalfont-Fioretti, 20 ans, c'était l'âge de quoi?
Des premiers amours en Afghanistan.
Et voilà. Et vous avez trouvé votre mari. Ouais. France Info ou RFI?
RFI.
Oum Kalsoum ou Fairouz?
Oum Kalsoum.
Marine Jacquemin ou Martine Laroche-Joubert?
Oh, je fais pas vraiment la différence entre les deux. Je pourrais dire la première, mais...
Albert Londres ou Joseph Kessel?
Albert Londres.
Vous seriez un homme pendant 24 heures, vous faites quoi?
Je demande pardon.
Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez quoi?
Égalité.
Et Dieu dans tout ça?
J'aurais aimé. Ça aurait été un outil utile.
Nous, jeunesse d'Iran, voyage interdit au sein de la génération Z iranienne. C'est dimanche prochain à 21h sur France 5. Merci et belle journée à vous.
Merci beaucoup. Merci à vous.